Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il y a quand même un truc super vexant qui m'est arrivé une fois.
Ah ouais.
J'étais un, pas un CP, un CE1. Et je suis arrivé, j'étais tellement crado. Elle m'a changé mon t-shirt.
L'institutrice.
Ouais. Et elle m'a coupé les ongles. Moi, j'étais pas content du tout après. Parce que mes ongles, ils me servaient. Ils me servent à travailler, ils me servent à plein de trucs. Quand on te coupe les ongles à ras, après, ça fait super mal et tu peux plus rien faire dans le jardin.
Par exemple, Corentine est arrivée avec ses copains. Je me souviens que le premier jour, j'aurais dit, venez, venez, je vais vous montrer, je vais faire les poules et les lapins. Je suis partie chercher des graines. Et là, je les entendais me rire et puis me regarder. Je les entendais dire, oh, mais c'est du délire, on dirait Heidi dans la montagne.
Ils s'appellent Rain et Sun, pluie et soleil en français. Ils sont nés en Angleterre, mais leurs parents, hippies dans toute la splendeur de l'époque, ont quitté leur pays au début des années 80 pour venir s'installer en Ariège et pour vivre, comme beaucoup d'autres, en autarcie dans la montagne. Les deux garçons ont aujourd'hui 28 et 31 ans et habitent dans le centre de Saint-Giron, une ville ariégeoise de 6500 habitants, connue pour son marché, qui réunit chaque samedi tous les babacools et paysans de la région environnante. Djala, elle, a 33 ans et vit toujours près de Massat, là où elle a grandi. Elle est née dans une grange isolée de la vallée de Berned, comme tous ses frères et sœurs. Elle s'appelle Djala parce qu'elle est sortie tellement vite du ventre de sa mère que son père a dit « elle est Djala, d'où Djala ». Tous les trois racontent aujourd'hui quel effet cela faisait et cela fait sur leur vie d'adulte que d'avoir vécu le rêve hippie de leurs parents et d'avoir dû s'adapter à cette vie sauvage, pure et en partie fantasmée de ceux qui sont retournés à la terre sans jamais y être allés. Enfance sauvage, c'est un reportage d'Inès Leroux réalisé par Alexandra Malka avec Rain, Sun et Djala jusqu'à 14h, une émission diffusée pour la première fois le 23 novembre 2013.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
On va commencer par le plus grand, c'est le grand frère, Sky. Après, il y a moi, donc Sundance. Ensuite, il y a Orion. Ensuite, il y a Rain. Et la dernière qui est née en France, c'est Étoile.
Alors moi, je suis né en 85. Et c'est là où il y avait la grande sécheresse en Afrique. Donc, ils m'ont appelé Rain.
Comme voilà. La pluie.
Comme la pluie, oui.
Et à Sky, c'est comme le ciel. Orion, c'est une constellation.
Oui, voilà. Ouais, c'est ça.
Et en fait, on est parti d'Angleterre avec un petit camion Volkswagen. Tous les six. Et on a traversé la France, donc on a atterri dans les Pyrénées, en Ariège exactement, et ils ont acheté une propriété dans la montagne. Là-haut, au début, c'était vachement rudimentaire, c'était un bain par semaine, et chacun son tour, dans le même mot, quoi. Il n'y avait pas d'argent, quoi. Voilà.
Donc c'est là où on a commencé à vendre au marché de Saint-Giron, les légumes du potager, ouais.
Donc on partait à l'école à pied. Donc il y avait 4 km à pied. Et toujours le plus grand qui amenait les autres à l'école.
Enfin, moi, 4 ans. Sun, 5 ans. Et Sky, 7 ans.
Et quand on rentrait, il fallait travailler dans le jardin. Une heure, deux heures, voire plus. En hiver, c'était un peu... des fois, on descendait en luge. Ou en ski, ça arrivait des fois. Et des fois, on n'y allait pas tout court. Mais bon, on n'avait qu'un plus envie d'aller à l'école à l'époque, parce que sinon, il fallait travailler à la maison, quoi. Voilà, donc l'école à côté, c'était du pupitre, quoi. Nous, on vivait sans fenêtre dans ma chambre. Il y avait une fenêtre, effectivement, mais il n'y a pas de vitrage. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de fenêtre. Et puis je me souviens d'une anecdote avec un pote qui est venu. Il rentre dans ma chambre et il dit « Putain, Son, il fait froid chez toi ». Il me dit « Ferme la porte, ferme la porte ». Je dis « Mais il n'y a pas de porte ». Et là on a eu un fou rire, mais mémorable. Voilà, ça s'est resté. Mais bon, si tu veux, c'était les chambres, il n'y avait pas besoin d'avoir chaud. C'était pour dormir.
Alors moi, c'est encore différent, parce qu'on avait trois chambres. On était quatre garçons. Et moi, je n'en avais pas. Donc, jamais de chambre. Donc, finalement, ils ont décidé que, bon, moi, je dormais avec Orion, dans la même chambre. Et vu qu'Orion, c'était plus âgé, lui, il avait droit au lit. Et moi, je n'avais pas droit au lit. Donc, moi, je dormais par terre. Ah, pile poil à côté de la fenêtre qui n'a pas de vitre. Et donc, en hiver, une fois, je me réveille le matin. Et je dis, putain, j'ai chaud, je suis bien, là. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il a neigé toute la nuit. Donc, le matin, la neige, elle est rentrée par la fenêtre. Elle a couvert mon duvet. Et grâce à ça, j'avais encore plus chaud. Je me sentais super bien sous la neige.
Diala, on va chez vos parents, dans la maison où vous avez grandi.
Voilà, on vient de laisser les voitures sur le bas de côté de la route et là, on part à pied, petit chemin qu'on faisait régulièrement pour aller chercher le courrier. On était pieds nus. Là, je parle d'autrefois.
C'est un chemin dans la montagne. Il y a des hêtres.
C'est des hêtres, ouais, qui nous entourent. Il y a des noisetiers là-bas en face. De la boue, parce qu'en Ariège, il y a beaucoup de boue.
Et il y a vos trois enfants et votre neveu qui sont en tête dans le chemin.
Voilà, exactement. Ils aiment bien venir gambader.
Vous avez quel âge, Tchala ?
33 ans.
Vos parents, ils sont arrivés en quelle année ? En Ariège ?
En 76. Alors, ma mère, elle était en Allemagne. Elle avait grandi dans une famille plutôt douloureuse, son passé. Je pense que c'est ça qui a fait qu'elle s'est rebellée. Elle a rencontré, quand elle était jeune, le monde hippie. Donc avec sa guitare et son chien, elle a quitté l'Allemagne où elle était plutôt en échec avec ses parents. Elle est arrivée ici en tant qu'hippie. Et mon père, lui, pas du tout. Il n'avait jamais côtoyé un hippie de sa vie. Il était fils de colonel. Donc il avait bougé d'endroit en endroit. Et son rêve, c'était de se poser en montagne en tant que berger. Il est venu se perdre, donc, dans les Pyrénées. Il a rencontré ma mère. Elle arrivait enceinte. Elle était enceinte, il neigeait, etc. Mais quand il a vu ma mère, il l'a trouvée belle. Et il lui a tapé sur le dos en lui disant, écoute, ici, il nous faut des femmes et des enfants. Donc voilà, c'était un petit peu brut pour quelqu'un qui est arrivé de l'Allemagne, un peu cultivé, etc. Mais bon, et après, ben voilà, avec mon père, il y a eu une alchimie qui s'est faite. Et donc, mon père était en train de construire une maison. Mais lui, il voulait vivre tout à fait comme un agriculteur ariégeois. Et ma mère, quand elle est venue s'installer avec lui, elle dit, pardon, mais ces poteaux électriques, là, tu vas les laisser? Mon père, il me fait, bien sûr. Enfin, bref, il y a l'électricité sur place. C'est déjà une chose extraordinaire, je n'ai pas à la mettre. Ma mère a dit, non, mais si moi je vis avec toi, tu me coupes ces poteaux électriques. Voilà, en fait, c'est un peu pour vous montrer le caractère de ma mère. Elle voulait se couper du monde moderne. Elle voulait pouvoir vivre en autarcie. Elle voulait se prouver, je pense, que c'est possible de vivre en autonomie complète.
Donc voilà la maison de derrière, donc la maison de la grand-mère. Elle aurait besoin un peu d'être rénovée. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas.
Avec les volets, les vieux volets en bois, voilà, qui partent dans tous les sens.
Barbara, elle est descendue au jardin?
On habitait en montagne, totalement reculé du système. Ma mère appelait ça le monde d'en bas. Pas parce qu'ils étaient hautains, pas du tout. C'était plus parce qu'on habitait en montagne. Donc c'est vrai qu'on était en haut de la montagne. Voilà pourquoi on disait le monde d'en bas et nous le monde d'en haut. On n'allait pas à l'école, on était 8 enfants. Et moi je me souviens que petit, on gambadait dans la campagne. On faisait des cours avec notre père. Il nous avait appris à lire, écrire et les quatre opérations. L'hiver, par exemple, quand il y avait le temps, tous les jours, il en prenait un par jour. C'était, oh non, quand mon père il m'appelait, allez hop, là, à l'école. Oh, je dis, là, c'était à contre-cœur que j'y allais, quoi. Mais ma mère refusait tellement tout du monde moderne qu'on n'avait pas de bottes, par exemple, ou de chaussures. On avait des sabots. Donc on mettait du foin à l'intérieur. L'hiver est toujours dur. Et pareil, nos habits, c'était vraiment des habits faits maison. Et il n'y a que sur le plus tard, quand on a grandi un peu, où les gens nous donnaient en fait beaucoup de choses. Je n'avais pas le droit de les prendre. En nylon, en plastique, trop rose. Il fallait que ce soit en coton ou en laine, naturel. Ils n'avaient pas d'argent à ce moment-là. quand on était tout petit. Et du coup, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des trocs. Comme ils avaient des grands jardins, par exemple, ils troquaient les pommes de terre contre de l'huile. Les soirées, je me souviens souvent le soir, quand on jouait aux cartes, c'était le moment où on se détendait, c'était le soir, parce qu'on travaillait toute la journée. Souvent, on jouait au tarot, ou au mille bornes même, parce que voilà, c'était un jeu qu'on avait eu par la famille, parce que c'était deux familles aisées de mes parents. Donc au départ, on a reçu des colis, mais c'était retour expéditeur, parce qu'il y avait des choses en plastique dedans. Donc après, la famille avait bien compris, donc ils nous envoyaient des trucs utiles. Donc souvent, le soir, je me souviens qu'on jouait ces jeux, et puis on battait le beurre en même temps. Dans un bocal, on mettait du lait. Et on le secouait, et on le faisait passer à tour de rôle autour de la table. Et à la fin, ça devenait du beurre.
Allez, elle n'est pas sauvage. Hein.
Tu dis à Richard et Noah que moi je descends par là. Oui, on part par là, nous.
Ils vont à la rivière.
Tu leur dis de venir.
Dès le matin, il y avait mon père, il partait aux vaches, traire les vaches. Ma mère se levait et elle appelait un de ses enfants afin qu'on lui aide à faire le déjeuner parce que il fallait faire la pâte à chapati, c'était notre pain. Et mon père donc rentrait avec le lait encore tout tiède. On réveillait les autres enfants et là on faisait le petit déjeuner. Et du coup, après le repas, ma mère nous départissait les tâches. Alors, il y avait celui qui partait faire les lits, ranger la chambre. Ça, c'était les plus jeunes. Ensuite, il y avait ceux qui partaient faire les poules, les autres les lapins. Les plus grands, qui eux avaient des responsabilités plus grandes, qui partaient soit aux vaches, soit faire les lessives, donc allumer le chaudron. Et après, c'était des journées entières à la lessive. C'était une vie campagnarde où le travail passait. Ouais, il fallait travailler pour survivre, quoi. C'était du matin jusqu'à la nuit. Donc voilà. Et souvent, nous, les enfants, on avait une pause parce que ma mère, comme elle était souvent enceinte, elle faisait souvent des siestes. Et donc, pour nous, c'était le moment de répit. Donc, c'était notre moment de loisir aussi. On partait soit voir les copains, soit on se rencontrait dans la forêt à mi-chemin. Et c'était notre moment de... Voilà, on allait jouer. Et ma mère, un jour, on a eu une grosse confrontation ensemble parce qu'elle m'avait dit que je pouvais aller jouer après. Que j'ai fini mes tâches. Et une fois que je les avais finies, en fait, il y en avait d'autres. Donc, je n'ai pas pu aller jouer, je me suis rebellée. Et je lui ai dit, écoute, tu as fait plein d'enfants pour ensuite t'en servir pour ton usine à travail. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'école et on n'a pas le droit d'aller voir nos copains. Je te déteste. Et je vais faire la grève.
Eh, vous n'avez pas le droit d'aller dans le poulailler, hein.
Il y en a dans le poulailler.
Ils sont dans la niche.
Ça pue dedans.
Vous êtes allé quand même enfant dans le monde d'en bas ?
Oui, on y allait parce que on allait voir nos grands-parents. Par exemple, j'avais une grand-mère avec qui on était vraiment très très proches. C'était la mère de mon père. Et donc, on allait souvent voir cette mamie magie l'été. Je me souviens rien que ça, prendre le bus après le train. On parlait fort, on criait, on courait dans les couloirs. On était des petits sauvageons et en Bretagne, c'était magique. Parce qu'on arrivait dans une grande maison, c'était des manoirs. Bon, là, c'était une grande maison en Bretagne. Et donc, la grande salle de bain avec plein de produits dedans. C'est toute une ambiance derrière que nous, on n'avait pas là-haut. Il faisait toujours chaud, il y avait le chauffage, etc. Alors, on était plein de cousins et cousines, donc ils étaient tous de la ville. J'arrivais un jour à table, donc tout contente de retrouver. Alors, cette brioche, ça sentait la brioche. On mettait du beurre et du miel dessus, avec le chocolat chaud. Et donc les cousins et cousines qui un jour disent « Oh, mais pourquoi ça sent mauvais ?» Là, je regarde ma grand-mère et puis elle dit « Voyons !» et tout. Elle dit « Mais ils ne sentent pas mauvais, ils sentent l'odeur du bois. » Et là, tout d'un coup, je sens mes vêtements et moi, je ne sentais pas cette odeur. Je dis « Mais qu'est-ce qu'ils racontent, je ne sens pas mauvais ?» Alors, il y a eu une sortie en ville qui était très forte. J'étais jeune, je devais avoir 10 ans. Et quand on est rentré dans la ville avec la charrette et l'âne, ma mère, elle se mettait loin pour ralentir les voitures. Et là, je me souviens tous les gens qui nous regardaient. Et en fait, eux, les gens, ils hallucinaient. Ils croyaient que c'était un spectacle qui allait se dérouler. Et quand on a vu leur regard, c'est là où moi, j'ai pris conscience qu'en fait, au début, c'était rigolo. Intrigant, je me disais pourquoi ils nous regardent comme ça et tout. Je pensais que c'était eux qui étaient différents, puis j'ai vite compris que c'était le contraire. En fait, c'était nous qui étions différents qu'eux.
culture, les pieds sur terre.
Bah nous, on mangeait tout ce qui était poule, oie, cochon.
En fait, on tuait tout ce qu'on avait, on les tuait. Parce que, disons, il faut quand même préciser que nos parents, ils n'avaient pas de connaissances particulières. Et pour tuer, par exemple, les cochons. La première fois qu'on a tué un cochon, donc notre père, il nous envoyait chercher le cochon qui bougeait avec un couteau. Mais le problème, c'est qu'on avait oublié de l'aiguiser. Donc on était là à poursuivre le cochon, en train d'essayer de lui couper la tête avec un couteau qui ne coupait pas, quoi. En y repensant, c'était folklorique, quoi. C'était assez traumatisant aussi. Moi, maintenant, tuer les animaux, c'est pas trop mon truc non plus, quoi.
Moi, c'est pas celle-là qui m'a choqué le plus. La première fois que j'ai tué un canard, mon père me dit, bon, mais tue le canard. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Je le noie, je l'assomme. Je dis, bon, mais je vais essayer de le noyer. Parce que moi, je me rappelle, mon père m'avoir dit un jour qu'une noyade, c'était une mort à cool.
Vous aviez quel âge?
8-9 ans.
Et donc, moi, je partais dans la mare et j'attachais une corde et j'ai mis la tête sous l'eau. Sauf que pour noyer un canard sous l'eau, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce que je descendais des fois pendant 5 minutes, je le remonte, il était encore vivant. Et ça m'a pris, je sais pas, 2 heures. On peut le dire, c'était un peu n'importe quoi, oui. C'était un peu...
Avec la vision d'aujourd'hui.
Ouais. Quand on voit maintenant comment c'est simple, avec des mecs qui savent le faire... Nous, on était vraiment des amateurs.
Vous avez eu envie de reproduire un temps ou pas la vie de vos parents?
Non. Mais après avoir mon jardin et vivre, je veux dire, dans la nature et tout ça, oui. Gagner sa vie comme ça, non. Je trouve que c'est...
Mais c'est trop dur.
C'est trop dur, c'est vraiment... Enfin,
les jardins, c'était dans la pente. Donc à 45 degrés, c'est tout à manuel. Il n'y a aucune rentabilité. Ça va si c'est pour soi, pourquoi pas. Mais après, de là, en vouloir faire un business, non, c'est du grand n'importe quoi.
Aujourd'hui, vous vivez en Ariège, toujours?
Oui, ça s'est fait parce que j'ai décidé à 18 ans d'être charpentier. Donc finalement, je suis resté.
Moi, je me suis mis dans le bâtiment. Ça fait 4 ans, j'ai créé mon entreprise. Et ça marche bien.
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 28.
J'en ai 31.
Moi, j'aime bien m'habiller.
Ah, c'est sûr que oui. On n'est pas du tout habillé comme Zippy. On ne se trimballe pas avec une voiture Zippy. On est plutôt à peu près comme tout le monde. Mis à part qu'on est quand même dans le monde du bâtiment. On ne travaille pas non plus comme des cadres ou... avec une chemise ou une cravate, quoi. Voilà. Je pense que de vivre comme ça, nos parents, ils n'ont jamais travaillé pour une entreprise ou pour quelqu'un. Donc ça nous a aussi appris à gérer tout son travail, tout à notre compte. Enfin, moi, je me vois mal à travailler pour un patron. Ça, non.
Ma mère, souvent, elle disait, tu sais, vous savez pas la chance que vous avez d'être ici, justement, d'être entouré d'une telle nature. Parce qu'en ville, c'est boulot dodo, tout le temps. Et moi, souvent, je lui répondais, je lui disais, mais tu sais, ici aussi, c'est boulot dodo. À une autre façon, on bossait énormément. J'ai très rarement vu mes parents ne rien faire. Mais même aujourd'hui, je continue à les voir. Si je veux les voir, quand ils ne font rien, je les invite chez moi. Et c'est la grand-mère avec ses petits-enfants qui sont en train de foutre le souk. Regardez, elle est là-bas en face. Elle va aux patates. Je vais quand même aller récupérer mes enfants.
Harry, tu me rejoins soit en bas là, le mieux par là, ou aux voitures.
Vous avez souvent crié dans la vallée?
En fait, tout le temps, parce qu'on n'avait pas le téléphone. J'appelais ma copine, ouh, et on avait chacun notre cri. Du coup, on se reconnaissait. Ah tiens, il y a ma copine qui veut me parler. Et on avait nos codes.
On vient faire les patates.
La vallée de Djala, la 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 la.
On a chanté ça à l'époque, toujours avec les enfants. Moi, oh, j'aime bien faire les pommes de terre.
Mais moi, en fait, en vrai, j'aime le jardin. Mais j'aimais pas la corvée quand tu sais que tu vois, tu ramasses les haricots là et tu sais que t'en as pour 4 heures dans le champ. En fait, c'est tout.
Tu peux arracher les petits.
Je savais pas si je peux les enlever ou pas.
Ceux-là, non. Mais le petit, là, ouais.
Voilà, j'ai grandi à Figuette, mais il y a plein de trucs que j'ai oubliés. C'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait des amis. Et moi, c'est quelque chose, autant je peux être coquette, autant ça m'est égal de me faire des tâches ou de me salir. Je sais que j'ai la machine qui va le laver.
Oh là là.
Non, mais c'est vrai.
Je trouve que c'est grave que pour une tâche, on fout le t-shirt à la machine à laver. Mais tu te rends compte,
non, mais c'est
tonnes de produits qui partent dans la terre pour une petite tâche sur un t-shirt blanc.
C'est pas ça,
mais
que
c'est
que
la cata.
Vous l'avez encore, votre linge au lavoir?
Ouais, bien sûr. Bon, à l'époque, c'était beaucoup plus dur parce que on avait donc 7 enfants en affaire dans 10 ans, c'est-à-dire j'avais toujours 2 bébés dans les couches en même temps. Et on n'avait pas des couches de table comme maintenant, c'était des couches en tissu. Donc ça faisait 40 couches par jour. Et je les lavais tous les jours.
Et Barbara, elle criait « Diala, va laver les couches au lavoir !»
Non, toi, quand tu étais grande.
Au début, moi, je disais,
c'était moi qui faisais toujours ça.
Ouais, c'est ça.
Ah, la ribambelle arrive. Venez manger les carottes.
Les carottes, les carottes, les carottes.
Il y en a là-bas. Moi, si vous pouvez vous trouver une carotte. Comme mes frères sont dans le bâtiment, un jour j'ai dit à ma mère, bah, écoute, ça serait pas beau comme cadeau de Noël un jour qu'on vous fasse une salle de bain. Une vraie, le confort et tout. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a éclaté de rire, elle a dit, de mon vivant, jamais. À 15 ans, moi j'ai explosé, j'ai fait une première fugue en me disant je m'en vais. En fait, je suis partie parce que moi j'étais la première des 8 enfants à me poser le pourquoi des choses. J'avais envie de sortir, de voir à l'extérieur ce qu'il y avait, toujours. Et je suis partie en courant à travers la forêt. Enfin, je ne voulais pas vivre leur vie, quoi. Et mon père, quand il a vu que je ne suis pas rentrée, le lendemain, il est venu me chercher. Il dit, écoute, on a bien réfléchi et voilà, tu as la possibilité de faire un apprentissage à tel endroit, donc en boulangerie, si tu veux, tu pars. Est-ce que ça te va? Et là, bon, pour moi, c'était l'inimaginable qui se produisait. J'ai eu mon premier appartement, donc. D'un côté, j'étais très contente. Et de l'autre côté, j'ai découvert, en fait, la solitude. D'abord parce que je travaillais la nuit. Et deuxièmement, parce que j'habitais seule. Et quand vous avez passé une vie entière à vivre, peut-être en autarcie, mais avec vos animaux, avec vos frères et sœurs, avec votre famille, on était très liés, du coup, on était vachement soudés. Et bien, cette solitude, elle m'a fait vraiment bizarre. Alors, au début, je suis arrivée, souriante, tout ça, ben, personne ne me souriait, personne ne me disait bonjour, on est en ville, quoi. Et quand on se retrouve à la ville, entourée de monde, ça grouille, il y a du bruit. Eh bien, je ne me suis jamais sentie aussi seule que ce jour-là. J'avais l'impression vraiment d'être tombée dans le désert. Après, j'ai fait un BAFA. Après le BAFA, j'ai fait donc le BAPAT. Il fallait avoir un niveau 3e. J'ai compris que si je ne trichais pas, je ne rentrerais dans aucune formation. Du coup, j'ai triché sur les papiers. Et donc, en face des jurys directement, je ne pouvais pas. De toute façon, je ne pouvais plus tricher. Et là, je leur ai tout dit. Je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas un niveau 3e. Oui, ben on s'en rend compte qu'ils me disent. J'écrivais comme je parlais, par exemple, phonétiquement. Je lui ai dit, voilà, j'ai jamais été à l'école. J'ai grandi en montagne avec 8 frères et sœurs. J'ai un niveau CP. Je sais que j'aurais rien à faire ici, effectivement. Mais j'ai compris aussi que si je poussais pas les portes, je resterais en bas et j'ai pas envie. J'ai envie de travailler, j'ai envie de me cultiver, j'ai envie de grandir. Donc soit vous croyez en moi, soit vous fermez la porte. Maintenant, vous savez pourquoi je suis là. Et là, il m'a serré la main, il m'a dit, écoute, on ne peut rien te dire pour le moment. Et puis, j'ai eu le courrier, donc affirmant que j'étais bien prise là-bas. Je vis entre les deux villages. Je suis revenue aux racines aussi, en Ariège. Et j'essaye justement d'avoir un juste milieu entre ces deux mondes-là, entre le monde d'en bas, comme disait ma mère, et le monde d'en haut.
Entouré de nature, un petit chalet, malgré que on ait le confort, hein, il y a l'électricité. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Moi, j'ai jamais hésité à les mettre à l'école. Et vous savez ce qui est le plus marrant, c'est que si demain je disais à ma fille, tu vas pas à l'école, ça serait la pire des punitions. Et mes fils, pareil, ils y vont en courant. Moi, j'apprends plein de choses, du coup, avec eux aussi, quand ils rentrent, avec leurs devoirs. Et du coup, dans le travail, j'ai monté mon entreprise de location de VTT. Bon, ça, c'est saisonnier. Et après, en dehors de ça, j'écris. Avec un niveau épais, j'ai réussi quand même à écrire mon premier livre. Et en écrivant ce premier livre, donc c'est l'histoire de mon enfance, je n'osais même pas le proposer à quelqu'un, parce que c'était bourré de fautes. Et que voilà, il y avait la ponctuation, enfin, rien ne se tenait, quoi. Et un jour, j'ai demandé à un prof de français que je connaissais, qui connaissait aussi mon passé. Je lui ai dit, lis-moi ce chapitre et dis-moi ce que t'en penses. Et il m'a répondu, il m'a dit, mais c'est dingue, on y est. Juste, il y a une chose, il faut que je te forme. Ça va prendre du temps, mais si t'as pas peur, je peux te former. Donc il m'a formé chapitre après chapitre, la ponctuation, l'orthographe, tout bon. Et j'avais envoyé 10 enveloppes à 10 éditeurs différents. J'y connaissais rien, donc j'avais envoyé à des comptes d'auteurs, à des éditeurs, enfin à tout. La dernière des enveloppes m'est revenue et c'était les éditions Glénat. Et je me souviens, j'ai éclaté de rire, j'ai dit à mon mari, je fais un bide parce que j'ai vu qu'il y avait le livre dedans qui me revenait. Et en fait, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai été très surprise parce qu'ils m'ont dit effectivement qu'ils avaient eu le coup de foudre et que cette histoire les intéressait. Pour moi, ça a été, je ne sais pas comment vous expliquer, c'était énorme. Je crois que j'ai mis au moins 6 mois à m'en remettre. J'étais euphorique, excitée, c'était le plus beau cadeau du monde qui puisse exister. J'étais dans un état second un peu. They know it's time. They know in every feather they can feel it. They know. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Enfance Sauvage, un reportage d'Inès Leroux réalisé par Alexandra Malka et diffusé pour la première fois le 23 novembre 2013. Merci à Djala, Maria Longa et à toute la famille Messonnier, à Rain et Sun Gunning, à Nicole Tarot et à Faustine Sternberg. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Vos commentaires, direction les réseaux sociaux, compte Twitter, page Facebook. On vous y attend nombreux. N'hésitez pas à partager, liker et commenter nos émissions si elles vous ont intéressé.